Eh bien bonjour, donc je suis à Lens aujourd'hui devant cette gare assez exceptionnelle, on va dire qui fait partie du patrimoine de Lens et que je vous invite bien sûr à regarder avec grande attention puisqu'elle fait partie de l'art déco de cette ville et donc elle est précieusement préservée, on va dire, remise en état puisqu'elle fait partie des sites classés. Je vais dire pas UNESCO forcément, quoique avec le bassin minier peut-être aussi, mais au-delà de ça par les monuments historiques, voilà. Donc c'est devant cet édifice encore fonctionnel que j'ai à côté de moi quelqu'un qui a une mission sur le bassin minier. Bonjour.
Bonjour. Oui, donc je suis Mélanie Delot, directrice de projet pour l'engagement pour le renouveau du bassin minier auprès du préfet de région.
Voilà, donc j'imagine que pour la France, cette région a encore une histoire, un sens peut-être à redéfinir, et puis des populations dont elle doit traiter le devenir.
Tout à fait. C'est l'ambition du renouveau du bassin minier, c'est de s'occuper des gens, redonner, changer les conditions de vie des habitants du bassin minier en 10 ans, donc de 2017 jusqu'à 2027, et puis contribuer à la redynamisation du territoire.
Donc ce bassin minier est assez étendu, il traverse le Pas-de-Calais, une partie du Nord, je crois, en termes de département.
Tout à fait, c'est quatre intercommunalités côté Pas-de-Calais et quatre côté Nord. Donc on va de Béthune jusque Valenciennes, en passant par Lens, Hénin, Douai, Lostrevent, la Porte du Hainaut et aux Artistes-Marquion.
Est-ce que cet ensemble, on va dire ce grand territoire, a des caractéristiques et des problématiques communes et peut-être des points, des orientations vers un avenir un peu particulier, singulier et spécifique?
Alors, il y a une histoire commune qui a laissé des traces, une fierté, mais aussi des traces moins positives, avec des taux de précarité encore importants pour la population, des problématiques de santé. Parmi les choses positives sur lesquelles le programme essaye de construire, il y a tout ce patrimoine naturel de logement qui est hérité et de santé qui est hérité de l'histoire minière. Et donc, dans le RBM, par exemple, on vise à éradiquer les passoires énergétiques dans les cités minières. Ça concerne 23 000 logements qu'il faut réhabiliter en 10 ans. Rénover aussi les espaces publics pour embellir le cadre de vie, donner envie aux gens de revenir habiter dans ces cités. C'est réaménager des espaces naturels pour les ouvrir au public, en faire des espaces de promenade. C'est travailler aussi sur les enjeux de santé, notamment avec la reconstruction de l'hôpital de Lens, qui est historiquement composé de plein de petits morceaux et dont on va faire un hôpital moderne.
Donc j'imagine que pour nourrir ces projets ambitieux, il y a des moyens, alors certains peut-être de l'Europe, hein, on parle parfois du FEDER, je ne sais pas si ça va poursuivre et jusque quand. Et puis il y a la région, les départements, et puis les agglomérations. Puis là, donc l'engagement pour le renouveau du bassin minier, ce sont des moyens nouveaux.
Alors, il y a des moyens nouveaux pour les cités minières en particulier. C'est près de 200 millions, tout confondu, entre l'État, le Conseil régional, les intercommunalités pour le volet logement. Et encore 200 millions État-région auxquels on ajoute les investissements des collectivités locales pour le volet des espaces publics. Ça, ce sont des fonds qui ont été mis sur pied spécialement pour le RBM. Et puis on a aussi des financements qui sont fléchés de façon un peu prioritaire pour le territoire parmi des enveloppes nationales existantes. Je prends par exemple l'exemple des bassins de natation pour le bassin minier, où l'Agence nationale du sport est encouragée par le préfet à regarder de façon favorable les projets qui viennent du territoire. Là, je parle des efforts de l'État, mais les collectivités régionales et départementales sont également partenaires de cet effort.
Donc, dans engagement pour le renouveau du bassin minier, il y a le mot renouveau. Renouveau, ça peut vouloir dire rénover aussi, mais en partie aussi réorienter, non?
Rénover ou réorienter, c'est changer aussi le regard. En termes de réorientation, je pense un peu au développement économique. Peut-être réconcilier les habitants avec l'industrie qui a voilà, une image historiquement de poussière, de maladie aussi, hein, je pense à la silicose dans les mines, pour que peut-être les jeunes aient envie d'aller travailler dans des industries qui sont plus si salissantes que ça, et peut-être aussi des industries qui se décarbonent petit à petit. On parle beaucoup d'électromobilité, mais toutes les industries petit à petit vont devoir, pour des raisons d'économie d'énergie ou par souci de la planète, réduire leur empreinte carbone. Et donc ça aussi, ça peut peut-être inciter les jeunes à se tourner un peu plus vers les entreprises et les industries locales.
Alors c'est sûr que pour que le territoire devienne ou redevienne dynamique, on a sans doute besoin d'une économie solide avec des entreprises puissantes. Il y a peut-être depuis l'abandon des charbonnages et des entreprises associées, des petites implantations. Il y en a eu qui ont été solides, je pense aux pneus à Béthune, qui ont après peut-être d'une certaine manière un peu trahi leur territoire d'implantation, remplacé par d'autres qui ne sont pas forcément en termes de masse du même niveau. Donc on a besoin à la fois d'un tissu fort d'industrie certainement puissante mais fiable, et puis de petites industries, de PME qui amènent peut-être à la fois de l'économie mais aussi une certaine forme de lien social.
Une conscience aussi d'appartenance au territoire. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vient dans le bassin minier, elle vient parce qu'il y a du foncier, parce qu'il y a de la main-d'œuvre. Mais peut-être aussi, l'idée, ce serait qu'elle corresponde à un projet. Et c'est ce que font les différentes intercommunalités, définir un projet. Qu'est-ce qu'elles souhaiteraient construire à horizon 4-5 ans en termes de développement industriel, et comment tout ça va se mettre en cohérence avec les entreprises qui arrivent. Par exemple, donc sur Lens-Liévin, il y a une volonté de développer des entreprises, une industrialisation décarbonée. Donc ça implique aussi de faire des choix dans les entreprises qui viendront s'installer. On a des entreprises qui viennent s'inscrire dans de l'économie circulaire. On a un recyclage de batteries qui est arrivé récemment à Arnes, par exemple. Donc ça, ce sont des choses qui sont cohérentes, voilà, et qui permettent de construire un récit cohérent avec le projet du territoire.
Au-delà de Lens-Liévin, donc dans les autres bassins, est-ce qu'il y a aussi des projets innovants et originaux ?
Je pense du côté de la Porte du Hainaut, il y a tout un projet de territoire aussi qui mise sur le pôle ferroviaire, sur le pôle vélo. Alors ce sont des entreprises, le pôle ferroviaire, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est aussi quelque part un héritage des mines, mais c'est maintenant une industrie d'avenir. C'est le transport quelque part du futur, le vélo aussi. Donc oui, on peut le voir comme un renouveau ou un changement de regard des entreprises, des industries anciennes qui innovent, puisqu'on a tout un pôle de compétitivité autour du ferroviaire dans le Valenciennois et qui sont porteurs maintenant d'avenir.
Alors il y a aussi bien sûr l'industrie de la voiture, l'automobile, qui a eu son heure de gloire, qui existe encore. Et puis de la batterie qui a pris un peu le relais aussi dans certains endroits. Donc il y a pour le coup un renouveau lié à de nouveaux besoins et des orientations écologiques ou économiques.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, les entreprises du futur les entreprises à partir de maintenant doivent tenir compte de la raréfaction des ressources, du prix de l'énergie, et ça va finalement avantager celles qui sont un peu vertueuses sur ce plan-là. Et les dispositifs de soutien financier, aussi bien ceux de la région avec la politique REV3 que les territoires d'industrie, se verdissent aussi et incluent de plus en plus des conditions de décarbonation. On voit aussi nouveaux concepts de zones d'activité où on essaye de d'encourager une forme de circularité entre les déchets des uns qui deviennent les ressources des autres, ou des mailles qui permettent d'optimiser la gestion des personnes, des transports, je veux dire, de l'énergie, des flux matières. Ça, je pense que ce sont des innovations à la fois économiquement intéressantes et puis écologiquement sensées.
Alors, j'imagine que dans vos partenaires, vous avez les communautés d'agglomération. Vous avez aussi peut-être des communes en solo sur certains projets, et puis des industriels ou des groupes, on va dire, qui sont de l'ordre du commerce ou de l'industrie, qui ont sans doute une vision aussi.
En tout cas, on a des collaborations qui se nouent avec le monde de l'entreprise, notamment par le biais d'établissements d'enseignement qui sont un petit peu innovants à la matière. Donc je pense au Club Delta Avenir, qui est animé notamment par le lycée Henri Sonnet de Hénin-Beaumont, avec 1000 entreprises participantes, 30 établissements d'enseignement, avec comme but de rapprocher ces deux mondes et de faire en sorte que les pépites se découvrent, aussi bien les pépites humaines parmi les élèves que les pépites au niveau des entreprises et de ce qu'elles ont à proposer comme poste pour nos jeunes.
Alors c'est vrai que ces jeunes, bien sûr au lycée, mais aussi après à l'université, donc on va dire que dans l'Artois, il y a une grande université, qu'elle est aussi à mettre sans doute pas en parallèle, mais en synergie avec l'Université de Lille et d'autres universités de France et du monde.
Je sais qu'il y a en tout cas des pépites bien cachées, en particulier au sein des établissements ici à Lens. On parle d'intelligence artificielle, donc il y a certainement plein de choses à découvrir. On ne peut pas forcément être les meilleurs partout et proposer de tout en termes d'enseignement, mais il y a des choses à trouver ici dans l'Artois, et puis il y a des choses à aller chercher parce que l'université du littoral ou Lille, finalement, c'est pas si loin. Donc il y a quelque part un apprentissage de la mobilité pour aller trouver chaussures à son pied en termes de formation, et puis être capable ensuite de revenir sur le territoire pour en faire profiter ici le territoire de toutes ces compétences et de ces connaissances qu'on aura acquises ailleurs. Le but n'est pas de s'enfermer sur un territoire, c'est au contraire de s'ouvrir pour être libre d'en partir et libre d'y revenir.
Donc ces entreprises qui voudraient venir ou qui ont fait un appel du pied, hein, elles aiment bien savoir où justement elles vont atterrir, quel sera l'environnement pour leur équipe, que ce soit les dirigeants ou les salariés, voir aussi localement s'il y a des gens compétents qui ne viennent pas de trop loin pour les employer. Hein, et donc tout ça, c'est une mise en phase entre la formation et puis les besoins d'entreprises d'avenir. Alors quel est l'avenir? C'est peut-être un peu là que l'État a des idées que je n'ai pas forcément.
Je crois que la région, les intercommunalités aussi se posent cette question-là et travaillent sur les projets à horizon 4-5 ans pour construire, comme on le disait, des projets de territoire cohérents. Et donc on vient en appui à ces démarches-là, même s'il y a évidemment des démarches dans le cadre de France 2030 pour pousser telle ou telle technologie, tel ou tel type d'innovation. Au final, c'est au territoire de s'en saisir et d'aller chercher les projets dans les entreprises en leur disant « Regardez, il y a des soutiens, allez les chercher. »
Voilà, donc il y a des soutiens, il y a des idées, il y a des nécessités aussi d'évolution, j'allais dire de révolution, sinon culturelle, quoique au moins aussi dans les pratiques, je pense aux pratiques vertueuses, l'environnement et bien d'autres choses. Les transports seront aussi déterminants dans la manière dont la région peut progresser.
Tout à fait. Là, on a un grand projet de nouvelle offre de services ferroviaires autour de l'étoile lilloise, avec un objectif de doublement des cadences en heure de pointe. Une nouvelle ligne donc entre le bassin minier et Lille sans passage à niveau pour être encore plus vite sur l'île dans cette logique de pouvoir partir et revenir. C'est aussi la mobilité du quotidien, puisque ces projets d'infrastructure doivent s'accompagner aussi de quelque part de changements d'habitude. Et ça, c'est des choses qui peuvent se travailler dès maintenant. Est-ce qu'on pourrait peut-être offrir la possibilité, par des infrastructures et un écosystème adapté, de développer soit de la mobilité partagée, je pense au covoiturage, aux voitures partagées, aux vélos partagés, soit de la mobilité complètement décarbonée avec des vélos, même des vélos assistantes électriques qui permettent de faire déjà entre 7 et 10 km le matin, 7 et 10 km le soir. Ça permet aussi de redonner de la mobilité à des gens qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se payer une voiture.
Voilà, donc renouveau égale projet, projet égale personne, ressources, des humains en quelque sorte.
Tout à fait. Et je pense que c'est un aspect important de le RBM. Il est souvent connu pour la rénovation des cités minières, mais on n'a pas que de la brique dans le RBM. Et donc je crois que c'est une préoccupation à la fois de l'État, du Conseil régional, des conseils départementaux du Nord et du Pas-de-Calais, qui ont en plus cette compétence solidarité, et puis des 8 intercommunalités qui sont signataires de l'engagement.